petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
Il est 15h, nous sommes le lundi 21 janvier de l'an de grâce 2019 et c'est l'heure de Radio Jardin avec notre ami Serge. Bonjour Serge.
Bonjour James et bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Mistral, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Albert William de l'agence Nostem. Il va se présenter. James, d'abord, il va me dire, mais pourquoi, Serge, on a invité Monsieur Albert William?
Eh oui, je sais, Serge, tu es doué pour faire les questions et les réponses, mais c'est tellement agréable, on dirait un instituteur à l'ancienne, un hussard de la République.
Donc, on a invité Monsieur Albert William parce que, bien sûr, il a une agence. Et pourquoi? Parce qu'il loue pas mal de maisons, il vend pas mal de maisons avec des jardins, où c'est que j'interviens quand il a des maisons à la vente ou quoi, pour remettre à l'état, pour conseiller ses clients. Donc voilà le but, où c'est qu'il est, que j'ai invité ce monsieur, très gentil, très gracieux, qui va se présenter, Monsieur Albert.
Écoutez, bonjour, merci de votre accueil. Donc l'agence immobilière Nesten à Manosque, c'est une agence qui a été créée en 2005. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est vente et achat de maisons, d'appartements, mais également la location et la gestion d'appartements et de maisons également. On rayonne sur le secteur qui va de Sainte-Tulle jusqu'à Villeneuve. Et effectivement, le jardin, c'est quelque chose d'important.
Tout à fait. Voilà. Parce que quand on arrive, Monsieur Albert m'a appelé déjà plusieurs fois, quand on arrive qu'un jardin est un peu à l'abandon, il faut le remettre en état. Les clients vont venir voir un jardin, s'ils trouvent le jardin mal taillé, pas joli, il est tout à l'abandon, tout ça, ça sera moins joli à la vente, je pense. Qu'en pensez-vous, James?
Mais moi, ce que j'en pense, c'est que tu as raison, visiblement, parce que c'est du bon sens, on ne peut pas aller contre le bon sens, et Dieu sait si en ce moment, il y a plein de choses qui vont dans le mauvais sens. Je parle dans les jardins, évidemment, hein, en toute ressemblance avec des situations connues et purement fortuites. Ce que je veux dire par là, qu'effectivement, oui, t'as raison, oui, c'est du bon sens. Il faut que tout ça soit entretenu et puis travailler en collaboration, d'après ce que
oui,
j'ai compris.
C'est très important. Monsieur Albert aussi, je vois que vous avez une agence sur Sisteron, si c'est ça?
Alors, il y a une deuxième agence Nesten, effectivement, sur Sisteron, hein, donc, où en fait, avec la deuxième agence du Sisteron, on arrive à avoir un maillage complet sur le département, voilà, du 04. Mais on travaille aussi, puisque Nesten, c'est 320 agences en France.
Ah oui,
donc,
même.
Du coup, voilà, exactement, ça nous permet de travailler en relation avec des agences de Paris, de Marseille, ouais, de Lyon, de Bordeaux, de Miami, ouais, puisqu'on a aussi une agence à Miami, ouais, à
donc,
La Réunion.
Si vous avez des étrangers qui recherchent dans le 04 des biens immobiliers, il faut qu'ils contactent Monsieur Albert William Nesten.
Et ils seront accueillis avec un grand sourire et ça sera avec plaisir qu'on se
très gracieusement de... parce que j'ai eu contact plusieurs fois avec ses secrétaires qui sont très agréables à l'accueil. Parlez-nous un peu de votre entreprise.
Oui, ah bah alors une entreprise à la base, nous, familiale, Manoskin, créée donc en 2005. Aujourd'hui, on est une agence de 7 collaborateurs au service de nos clients. Notre rôle, ça va vraiment être d'apporter le meilleur conseil possible. Donc le conseil pour bien vendre, donc l'importance avec le jardin, puisque mine de rien, on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Le jardin, c'est quelque chose qui est vu en premier, et puis accompagner les gens tout au long des démarches.
Vous savez que le jardin est un deuxième lieu pour les gens qui achètent une maison quand même. Parce qu'il faut savoir que dans le jardin, on y vit à partir du mois d'avril-mai jusqu'au beau jour. Qu'en pensez-vous, James ?
Moi, je pense qu'on est en Méditerranée et que ça peut aider à aller vivre un peu dans le jardin.
Oui, tout à fait.
Et de créer même des dépendances. Les gens créent des cuisines de jardin, des douches de jardin, des chambres de jardin aussi.
Au beau jour, on vit dehors, je veux dire.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut voir aussi l'aspect au niveau de la location-gestion. Un locataire est obligé d'entretenir son jardin. Les gens qui travaillent beaucoup peuvent avoir affaire à vos services parce que le propriétaire, sinon, peut récupérer sur le dépôt de garantie pour faire les travaux nécessaires.
Oui, moi, je le vois d'ailleurs. J'ai 2-3 maisons que j'entretiens. J'ai une maison que j'entretiens sur Pierre-Robert et la propriétaire habite en Amérique. Donc, dans son prix, elle inclut le jardin. Donc, j'interviens une fois par mois où je fais le jardin.
Voilà, après c'est vrai que l'importance du jardin va passer donc aussi bien pour la vente. Et c'est vrai que nous dans l'agence Nesten, on est là aussi pour apporter des conseils en partenariat donc avec Serge pour tout ce qui s'agit des extérieurs, mais également pour des travaux intérieurs et puis une aide et une assistance pour la vente et la location des biens.
Peinture, tout ce qui est petits travaux et tout. Oui, c'est sûr. Vous avez après des bonnes entreprises à votre arc.
Tout à fait. Et principalement des gens de Manosque, des gens des locaux, des gens avec qui on a l'habitude de travailler, des gens sérieux, parce que ça, c'est important.
C'est très, très, très important.
Tout à fait.
Voilà, James.
Et oui, Serge, ton invité nous fait prendre conscience que pour prendre soin d'une maison, il faut prendre aussi soin de son jardin.
Eh oui.
Est-ce que c'est le jardin intérieur de la maison elle-même, si c'est une entité plus ou moins habitée ? Pour la suite de cette émission, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Mais comment réaliser un massif ? Qu'est-ce que vous en pensez, James ?
Eh bien, écoute, tu vas me l'expliquer parce que moi, je n'ai toujours pas réalisé un massif.
Tu as un hectare de jardin, tu me dis que tu ne sais pas comment faire un massif.
Ah oui, mais moi, tu sais que je suis punk et que je suis pour le jardin punk, que je laisse pousser un peu sauvage.
Donc, un massif, c'est pas très compliqué, on va dire. Mais bon, il faut faire le bon départ, quoi. D'accord ? Comme je vous dis chaque fois, James, il faut toujours prévoir à l'avance, faire un petit croquis pour dire je vais faire un massif à tel endroit. Si on a un gazon qui fait à peu près 500 mètres carrés, grosso modo, on peut réaliser deux massifs bien centralisés dans le milieu de chaque côté du jardin, droite et gauche. Il va falloir toujours faire du relief sur un massif. James, il va me dire pourquoi, Serge ?
Le relief, c'est qu'une question de contraste, une question
c'est-à-dire
de
que si le massif,
volume.
Oui, voilà, le volume va être un peu plus relevé que si on fait un massif à ras de terre. Ça sera moins joli vu de loin. Quand on va arriver, on va moins se le voir, en fait.
C'est de la sculpture.
Tout à fait, voilà. Donc, on va relever un peu de 20 à 30 cm, grosso modo. On va faire donc du relief et après, on va planter nos plantes, plantes d'hiver, plantes d'été. Moi, je dis toujours, dans des massifs, il vaut mieux prendre des... À cette saison-là, on a les pensées d'hiver, les primevères, donc qu'ils ont commencé à fleurir de septembre jusqu'au mois de mai, qui vont fleurir donc tout l'hiver. On a des fleurs, c'est magnifique. Et ce qu'on va mettre dans le centre du massif, il faut toujours mettre une plante sur tige avec la boule au milieu, style tige boule en buis ou autre chose, qui va faire ressortir le massif. Après, dans le massif, on peut intégrer aussi des pierres de rocaille qui vont faire très joli. On peut délimiter le tour du massif avec des belles pierres aussi, un peu anciennes, ou des très beaux galets, de très beaux rondins aussi, ou des travers de chemin de fer. Donc des tas d'idées comme ça, qu'après il faut réfléchir à bien ce qu'on va y mettre exactement. Quand on a planté tout ça, il faut mettre du mûche cacao, des écorces de pin pas très grosses, qui vont servir à quoi, à votre avis, James ?
Je ne sais pas, au niveau de l'irrigation peut-être ?
ça va, pour, on va dire que pour l'été, ça va garder l'humidité un peu plus, c'est bien. Ça empêche la mauvaise herbe de repousser aussi. Et l'hiver, ça conserve le froid au niveau des plantes, c'est bien.
D'accord, donc, pour des questions thermiques aussi.
Donc, voilà, donc c'est très important, c'est pas grand-chose, mais des écorces de pin sur 5 cm, ça va préserver au niveau racinaire tout ce qui est plante et tout ça, c'est bien. Et puis, c'est plus joli à l'œil aussi. Donc, on va arriver, on va pas voir la terre, on va voir du muche cacao, des écorces de pin. On peut mettre de la pouzzolane ou des billes d'argile aussi, c'est très joli. Ou des petits galets de couleurs. Enfin, il y a des tas de trucs qu'on peut faire, en fait, hein. Voilà, James, ce qu'on peut faire dans un massif. On peut faire des massifs de rosiers aussi. Hein. Mais le problème, c'est que ça ne sera pas fleuri en hiver.
Et oui.
Donc, voilà. Après, c'est un choix à faire.
A-t-on besoin vraiment d'être fleuri en hiver ?
Mais oui, ma foi, c'est plus agréable. Moi je ne sais pas. Les jardins.
Mange-t-on des fraises l'hiver dans les pays
où... Tu parles de fraises, mais là, on parle de fleurs, James. Si tu arrives devant chez toi que tu as des
moi,
fleurs.
Moi, je suis le candide. Hein.
Tu arrives devant chez toi que ta femme le voit un massif de fleurs, elle va être contente.
Ben, je l'espère, en tout cas.
Qu'en
je
pensez-vous,
pour...
monsieur Abert ?
Ah, tout à fait. Et puis, on a des très, très belles fleurs dans notre région, même en hiver. Hein.
Oui, donc c'est agréable de voir des pensées fleuries. Moi, je l'ai fait à la maison de retraite. Les gens, ils arrivent voir leur maman, tout ça, qui sont en maison de retraite. Ils voient tout ça fleuri, c'est magnifique, je veux dire. C'est plus agréable.
Alors, justement, que trouve-t-on comme type de fleurs ?
Pensées.
À part les pensées.
Pensées, primevères, ouais. Giroflées.
Giroflées, ouais.
Tout ce style de plantes. On va dans les jardineries, il faut aller promener dans les jardineries et on va trouver toutes les plantes qui sont fleuries maintenant. Mais la fleur qui fleurit le plus longtemps, ça va être la primevère et la pensée, qui va fleurir jusqu'au mois de mai. Donc c'est intéressant.
La pensée qui est quand même une jolie métaphore quand même.
Mais pensez-y, quoi.
Oui, ça peut être une blague aussi, on est bien d'accord. Mais moi, j'étais dans la poésie, là, Serge. Tu m'as réveillé dans ma torpeur.
Voilà, donc, monsieur Abert, qu'en pensez-vous ?
Ben écoutez, c'est vrai qu'avoir un joli parterre quand on arrive dans une maison, c'est quand même une grosse plus-value pour la maison. Hein. Et les fleurs donnent aussi un petit peu de gaieté. Aujourd'hui, donc, quand quelqu'un va visiter la maison, il va arriver, il va avoir un beau parterre fleuri, un beau massif fleuri. Ça va rayonner, entre guillemets, embellir l'extérieur de la maison.
Je ne dirais pas de nom, mais j'avais sur Marseille une agence qui m'avait fait travailler, que je connaissais le monsieur. Sur Bandol, il m'avait dit, Serge, cette maison, je n'arrive pas à la vendre. Le jardin, il était pourri. J'avais fait des massifs, mais alors des trucs de folie avec des grosses potées, des gros pots énormes avec des plantes. Les gens, il a vendu la maison dans le mois qui suivit. Il m'a dit, c'est impressionnant. Donc c'est pour ça que je dis, donc, un jardin, c'est très important à la vente.
Et d'autant plus que la plupart du temps, la plus-value amenée à la maison est importante par rapport à l'investissement du massif, hein, qui peut, où il y a tous les prix, je pense.
Ouais, c'est clair. C'est sûr que même si on arrive dans une maison, les tapisseries sont décroutées, la peinture est pleine de trucs comme ça, c'est pas bon, quoi.
Et on a plus de gens qui vont faire du bricolage à l'intérieur que du jardinage. Donc il y a des gens où la peinture, ça va pas déranger à le faire, alors que faire recréer l'espace fleuri extérieur, ils savent pas faire peut-être.
Non, c'est un peu différent.
C'est un métier.
C'est vrai, tout à fait. Alors James, on continue ?
Mais ma foi, après ce passage, ce joli pont entre réaliser un massif, comment faire quand on sait pas ? On va passer à un autre sujet, la taille douce.
Oui, vous connaissez ça, James, je pense.
Oui. Mais c'était sous forme de blague concernant la coupe de cheveux qu'on pouvait avoir quand on fréquentait les jésuites ou l'armée, tout
oui,
simplement.
Oui, tout à fait. Les commandos.
Par exemple,
oui. Oui, donc la taille douce, c'est quoi ? En fait, j'ai horreur des gens qui élaguent les arbres à zéro, ça, je ne supporte pas. Ils n'ont pas compris qu'un arbre, ça se taille, il faut laisser des départs. C'est sûr que c'est facile, on arrive à tronçonneuse, deux coups de tronçonneuse, l'arbre est vite tombé, vite taillé. Il faut savoir qu'un arbre se taille en laissant des départs, horizontales, même verticales des fois, mais il faut savoir lesquels laisser encore. Tailler le maximum à la main avec une scie d'élagueur ou un gros sécateur. Parce que de tailler un arbre manuellement, c'est mieux pour lui, il faut le savoir. Un arbre, sa vie, c'est comme nous, d'accord ?
Besoin de contact.
besoin de contact, c'est très important. Il faut y aller doucement, comme on en a parlé il y a pas mal de temps. Quand on taille un arbre ou un végétal, il faut se reculer à plusieurs fois pour voir la forme qu'on va lui donner. Ok, James ?
Absolument.
Donc, il faut un mûrier, un érable panaché, un érable pourpre, même un platane ou quoi. Quand je vois les élagueurs, là, l'autre fois, je suis passé devant l'ancien hôpital et j'ai vu une entreprise d'élagage, je ne dirais pas le nom, qui taille des platanes à zéro, qui n'avait pas l'utilité de les tailler, parce qu'un platane, ce n'est pas une obligation de le tailler. S'il n'y a rien au milieu qui gêne, on peut le laisser pousser. Donc, c'est quand vous passez sur la route de Pérols qu'on voit ces platanes, qui n'ont jamais été taillés, ils sont magnifiques parce qu'ils taillent juste les branches qui sont dangereuses pour les camions. Mais je veux dire, un platane, si on ne le taille pas, il n'aura pas de problème de maladie, de tout ça, je veux dire, aucun problème. Donc, des platanes qui sont centenaires, qui ne jeûnent pas, autant les laisser pousser. Même sur ça même, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, ils n'ont jamais taillé les platanes, ils sont magnifiques.
C'est clair, la grande allée de platanes, c'est on imagine des diligences arriver.
C'est trop beau. Sur Réan, moi j'avais une cliente, elle m'a dit, ils ont presque 200 ans, on ne les a jamais touchés. Bon, il n'y en avait pas l'utilité, mais ils sont magnifiques, quoi, il faut voir.
Après, ce n'est pas très adapté pour la circulation, c'est
non,
clair.
Après, il y a des branches qu'il faut couper, bien sûr, que pour les camions qui sont trop basses, mais moi je parle de la hauteur. S'il n'y a pas de fil, qu'il n'y a rien au milieu, ce n'est pas une utilité de les tailler. Hein.
Mais après, on peut passer ailleurs aussi.
Oui, tout à fait. Bravo, James.
Non, mais c'est vrai que ce serait dommage de couper des arbres comme ça. Malheureusement, je pense que ça risque d'arriver un jour. Parce que,
oui, mais on n'a pas compris qu'un arbre, ça nous fait vivre quand même.
Eh oui.
Ouais, la chlorophylle,
oui,
tout
oui,
ça.
Oui, tiens, c'est un message à envoyer au Brésil, ça, en ce moment.
C'est important, quoi. Je veux dire, un arbre, heureusement qu'ils sont là, les arbres, pour nous faire respirer.
Eh oui, c'est un peu notre poumon, ouais. Effectivement. Ouais.
Donc après, la taille douce, c'est quoi? Quand on a un arbre qui fait 3-4 mètres, le rabaisser très légèrement, couper certaines branches intérieures pour qu'on puisse justement y voir à travers. C'est-à-dire que si tu as un arbre devant chez toi, style mûrier platane, tu vas le tailler pas sévèrement, bien sûr, laisser des départs pour qu'il te fasse de l'ombre, mais couper quelques branches intérieures, quand tu vas attendre dans ta terrasse, tu vas voir de l'autre côté, si tu as une colline ou quoi, tu auras toujours une belle vue, tu vois. Que l'arbre ne soit pas envahi, carrément, tu vois, de toutes les branches, de tous les côtés. Pas tout couper à zéro, mais laisser des départs et des branches. Donc, il faut appeler un professionnel pour qu'il t'explique ou qu'il te taille un arbre correctement. Ok, James ?
Eh oui, j'ai une question à te poser.
Oui.
Est-ce qu'il y a une règle d'or pour quand on ne sait pas trop tailler un arbre? Est-ce qu'il faut absolument appeler un professionnel? Ou alors il y a une ou deux règles d'or qui fait qu'on risque pas de faire mal à l'arbre au moins?
Les règles d'or, c'est que dès qu'on coupe une branche qui fait un peu plus de 5 cm, déjà à la base, il faut cicatriser. Donc d'où les maladies, les insectes et tout, ça c'est très important. Après, lever surtout certaines branches intérieures pour que le soleil puisse rentrer, pour que l'arbre fasse sa photosynthèse et tout, c'est important aussi. Ne pas laisser les branches trop basses, c'est pas très joli aussi. Moi, je dis toujours, sur un arbre, il faut qu'on voit le tronc, c'est très très beau. C'est important. Moi, je dis, quand je taille des oliviers, bon, après, quand c'est de l'olivier, on fait de la récolte, c'est vrai que c'est différent, mais si on a 2-3 oliviers dans le jardin avec des troncs assez importants, il faut un peu les relever pour justement qu'on voit le tronc de l'olivier, c'est plus joli à l'œil. Faites-en l'expérience, vous verrez, ça n'a rien à voir.
J'en ferai l'expérience. C'est promis, Serge.
Voilà, on a fait un peu le point de ça. On avait parlé des arbustes aussi l'autre fois. Pareil, idem, quand on taille un arbuste à floraison estivale ou printanière. Printanière, ça ne se taille pas maintenant parce que dans un mois, ils vont commencer à fleurir. Déjà, j'ai vu un forsythia il y a 10 jours qui commençait à pointer les petites fleurs jaunes. C'est grave quand même. Même les cognassiers du Japon, il y a 2-3 endroits où il y a des petites fleurs qui arrivent. Il faut savoir que la nature est un peu déboussolée maintenant quand même. Hein, je veux dire, il y a un petit problème au niveau...
S'il n'y avait que la nature.
Oui, c'est vrai. Gel, excusez-moi. Donc voilà, les arbustes floraison printanière, comme j'ai dit l'autre fois, se taillent après la floraison, un mois après. Et estival, on peut les tailler maintenant, mais pas partant de gel, d'accord ? Mais pareil, il faut toujours leur donner une forme esthétique jolie, par azomote. Leur donner une forme très jolie à l'œil, se reculer, faire un arrondi, ou regarder la forme qu'on veut leur donner, mais pas faire n'importe quoi. Toujours les relever de 50 à 60 du bas, c'est plus joli aussi. Voilà, James, on a fait le tour pour les petits arbustes et les arbres.
Et donc, on a un programme, et nous, on le respecte, notre programme. Le savoir-faire d'un jardinier, c'est le prochain thème que nous allons aborder.
Oui.
Mais peut-être on va faire une petite pause avec notre ami Pierre Perret,
oui,
qui nous disait « Donnez-nous des jardins ».
Ça, c'est très important.
Donnez-nous des jardins. C'est vrai que là, tu as fait une belle jonction entre comment on travaille quelque part tout en respectant la nature, en faisant la jonction aussi même avec le commercial qui est souvent regardé d'un œil businessman. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est sensible,
non,
à tes explications.
Monsieur Haber, quand il y a un problème dans le jardin, de suite, il me téléphone, il me dit « Serge, viens voir, ça va pas
». Et il a raison. Allez, Pierre Perret, donnez-nous des jardins et on se retrouve pour... le savoir-faire d'un jardinier. Et ensuite, on ira aborder la plantation sur un talus. Et ensuite, il sera question de potager, de mare de café. Enfin bref, toute une petite potion dont Serge a le secret. Pierre Perret.
Donnez-nous des jardins, des jardins. Pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils.
Donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles, le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille-pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse, loin des marteaux piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins pleins d'animaux marrants, ça nous changerait un peu nos parents.
Et oui, donnez-nous des jardins, Serge, pour acquérir peut-être, à force de le fréquenter, le savoir-faire d'un jardinier. Parce qu'il faut se plonger dans le milieu, je pense, pour arriver à ça.
Donnez-nous des jardins, chanson vraiment magnifique que tu m'as choisie, la James, vraiment très très belle. Le savoir-faire d'un jardinier, c'est quoi ? Mais un bon jardinier, quand il doit arriver dans un jardin, on va dire, qui est à l'abandon, ou qui doit créer, il doit savoir ce qu'il doit tailler, pas tailler, lui redonner, restructurer le végétal pour le redonner une forme plus jolie, on va dire, créer des massifs, savoir ce qu'il va faire à tel endroit ou pas tel endroit. Donc ça, c'est le savoir-faire d'un bon jardinier. Pareil, s'il doit faire des plantations, savoir ce qu'il va planter comme arbuste, fleuri, persistant, à tel endroit, qui vont fleurir au printemps, en automne, en été. Donc faire le choix de tout ça avec les arbres devant la maison, ce qu'il faut mettre ou pas mettre, un gazon, une rocaille avec des chemins, des accès. Donc voilà, ça c'est le savoir-faire, on va dire, d'un bon jardinier, James, qui doit savoir impérativement, en plus avec le nom des plantes, comme on a dit l'autre fois, le nom des plantes en français et en latin aussi, je pense que c'est important.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'expression « son jardin intérieur », parce que du coup, tu travailles à l'extérieur, mais on a l'impression que tu organises l'intérieur d'un jardin.
Si je te dirais que, tu sais, des fois, moi j'ai des chantiers, le soir, je pense à ce que je vais faire le lendemain. Dans ma tête, je réfléchis, je dis, tiens, je vais faire ça, ça et ça comme ça. À l'avance, je sais ce que je dois faire le lendemain, c'est tout dans ma tête. Mais bon, pour moi, comme je te disais l'autre fois, le jardin, c'est toute une vie. Hein. Je fais ça pour gagner ma vie, bien sûr, mais bon, mais c'est une passion, et puis voilà, quoi, c'est ma vie. Donc, de savoir qu'il ne faut pas faire venir n'importe qui pour faire un jardin, c'est important. Voilà, James.
Le savoir-faire d'un jardinier. Donc, est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur ce thème ?
Non, pas spécialement. Donc, comme je dis, il faut qu'un jardinier doit pas vous raconter n'importe quoi sur une taille d'un végétal ou quoi. Il faut même, quand vous faites venir un jardinier, demander s'il a un diplôme ou quoi. À la limite, c'est important, quoi. C'est comme si toi, James, je vais te dire, tiens, tu vas me faire une musique, je sais que tu es capable de le faire parce que tu es un bon musicien. Voilà, je veux dire, tu comprends ?
Oui, bah écoute, j'espère que beaucoup le pensent.
Mais oui, non, mais je pense que tu es comme ça, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Après, les gens, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi.
Oui, il faut surtout faire ce qu'on sait faire.
Voilà.
Et le mieux possible.
Tout à fait.
Bon, la plantation sur un talus.
Voilà, ça c'est pas mal. Par contre, quand on a des talus assez pentus, qu'est-ce qu'on va y planter dessus ? Du coton laster horizontalis, parce que c'est une plante rampante, avec des petites feuilles persistantes 12 mois de l'année. Des petites baies rouges très sympathiques. Après, on a le juniperus rampant qui est très intéressant. C'est un conifère qui est rampant. On a du vert, on a du doré aussi qui s'étale pas mal. L'avantage de toutes ces plantes rampantes, bon, il y en a d'autres. Hein. On peut mettre même du lierre aussi sur un talus qui est assez important parce que le lierre, ça couvre énormément et ça reste vert et ça drageonne beaucoup. Et qui va retenir justement la terre. Parce que si on a un talus qui a de la terre, il faut la retenir, cette terre-là. Donc, n'ayez pas peur de planter pas mal de plantes diverses, plantes rampantes. Donc, il y a même des rosiers. Maintenant, on a pas mal de rosiers rampants qui vont faire de la couleur aussi. Donc, allez dans les pépinières, regardez tout ça, de très beaux choix. On peut incorporer dans des gros talus, bien sûr, avec un engin, des gros rochers à certains endroits bien précis. Pour faire un petit peu joli, faire ressortir justement. Après, pour y planter derrière des beaux arbustes, pour faire très beau. Donc voilà, un jardin dans un talus, on peut planter un peu de tout, hein, très joli. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la plantation, dans les talus, il faut faire une cuvette surtout devant la plante. Parce que quand on va arroser les deux premières années, ou s'il pleut, pour pas que l'eau s'en aille comme ça, toute, d'accord ? Faire une cuvette bien devant pour que s'il pleut ou quand on arrose, l'eau elle puisse bien rester, que la plante puisse boire tranquillement. Bon, moi, ce que je fais aussi souvent, c'est que je mets devant les petits arbustes ou les plantes rampantes des pierres pour bien caler la plante. Et ça va maintenir aussi l'eau et tout, c'est très pratique. Voilà, James.
La plantation sur un talus, et tu peux nous en dire. Alors, tu nous parles des talus, c'est-à-dire sur la pente du
oui,
talus.
Oui, la pente, oui. Après, on peut l'habiller, comme je l'ai dit, parce que si on a un gros talus, il faut mettre aussi un géotextile dessous pour pas que l'herbe va repousser, et habiller tout ça de grosse écorce. Enfin, là, on mettra plus de la grosse écorce que de la petite. Pour maintenir, pour éviter que l'herbe repousse, et ça fera joli aussi entre les plantes. Ça va garder donc l'humidité, donc tout ce qu'on a parlé à peine, et ça fera joli à l'œil.
Qu'a-t-on encore à voir en cette saison, et puis qu'est-ce qu'on a encore à faire ?
On va parler un peu du potager aussi.
Eh oui, parce qu'il y a les talus, il y a les massifs, mais il y a aussi le potager.
Potager. Qu'est-ce qu'on peut faire en potager ? Bon, en ce moment, on est un peu en stand-by en potager. Il y a encore quelques plantes dans les jardineries, des salades d'hiver, tout ça, on peut en acheter. Mais comme j'ai dit l'autre fois, il faut penser à les couvrir avec un voile d'immergeage le soir. Autrement, c'est pas bon du tout. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont décheminé. Donc, ne pas jeter de la cendre, c'est pas bien, il faut la conserver. James, il va me dire pourquoi on va garder la cendre.
J'allais te le demander, Serge.
Parce que la cendre, c'est de la potasse, donc très bon pour la terre. Il en faut 70 grammes à 100 grammes au mètre carré. Donc on va s'en servir pour mettre dans le potager. On fait ça une fois par an, hein. Il ne faut pas le faire tout le temps. Hein. Donc on va en mettre dans le potager, dans les massifs de rosiers, dans les haies, on pourra en mettre autour des arbustes, on pourra en mettre de partout. Même dans le potager, il faut que la cendre, dans le gazon, pardon, il faut que la cendre soit relativement... fine, pas trop épaisse. Si elle est un peu plus épaisse, c'est mieux dans les massifs. Pour le gazon, il vaut mieux que elle soit très très fine. Ça va, c'est très bon pour le gazon, ça tue même la mousse et tout, c'est très bien. Il faut qu'elle soit froide, et pas chaude, bien sûr. Hein. De préférence. Donc si vous avez de la cendre, ne la jetez pas. Donc de votre cheminée ou pour la bois, gardez-la. Ça sert pour le jardin. D'accord ? Il faut y penser. Le marc de café aussi.
Alors oui, justement, moi ça m'intrigue toujours parce que le marc de café, il y en a marre des fois, je sais pas quoi en faire.
Mais alors... tu le gardes.
Oui, mais alors explique-moi.
Ça repousse les insectes, tout ça.
Et ouais, je savais pas moi.
Ça repousse les insectes, c'est bon pour la plante. On peut faire des. Même j'ai oublié de dire qu'avec la cendre, on fait des barrières justement pour quand on a le potager, ça repousse tout ce qui est insectes et tout. Donc les limaçons, les escargots, ils aiment
et
pas
oui,
tout ça.
Et
donc,
oui, bien sûr.
Donc mettre tout ça autour en bonne saison.
Donc on est reparti sur la cendre parce que tu avais oublié ouais. De nous préciser ça. Et alors le marc de café. Moi,
marc de café, c'est très bon pour les insectes. Ils aiment pas cette odeur-là en fait, les insectes.
Juste une question d'odeur.
Question d'odeur, donc à mettre au pied de plantes d'appartement, mettre quelques marcs de café. Dans le potager, on pourra mettre de partout, c'est pas gênant. On pourra mettre de partout, donc c'est très bon pour la terre et pour les insectes, parce que c'est une odeur assez forte, et ça va repousser donc tous les insectes du jardin. Ça ne va pas les tuer, attention, on est bien d'accord.
Très intéressant comme point de vue.
Ça ne va pas les tuer, ça va les repousser, d'accord. Voilà, donc on reste toujours dans le naturel et dans le bio, chez Fréquence Mistral.
Écoute, je ne sais pas si on est une radio bio, mais en tout
oui,
cas...
Oui, on est la seule temps... radio qui est bio.
Écoute, je ne sais pas encore si on peut avoir le label, mais en attendant, c'est
ça
sûr que...
Ça va venir, monsieur connais... Malaba, vous m'avez dit.
Il y a beaucoup de personnes qui tendent à être sur le respect de la planète, de la nature, et oui, sans rentrer dans le
cul après. Tu as vu que c'est passé en début janvier, donc plus de round-up pour les particuliers, les administrations.
Il était temps.
Mais pas pour les agriculteurs encore, dommage.
Et ça, c'est dommage parce que c'est quand même la plus grosse.
Déjà,
surface.
C'est un petit pas, on va dire, au niveau des particuliers. Parce que quand je voyais déjà certaines personnes qui achetaient du Roundup pour mettre dans le jardin, où ils avaient 50 mètres carrés, tu vois, c'était un peu déprimant. Donc tous ces produits dangereux aussi, les pucerons, tout ça, ils mettaient des produits très dangereux. Donc tout ça, ça a été supprimé, c'est bien. Donc on n'en trouvera plus dans les jardineries, c'est parfait.
C'est une bonne chose. Donc au niveau du potager, qu'est-ce qu'on peut faire encore ?
Rien, si vous n'avez pas encore fait, pensez à retourner votre terre avec la motobineuse. Sam, si tu ne l'as pas fait, tu prends ta motobineuse.
Alors, la motobineuse, je vais te dire,
ou alors
gentil.
À la bêche.
Oui, à la bêche aussi.
Tu fais du sport.
Oui, ça, c'est pas un problème. Mais en fait, moi, je ne bine plus mon jardin. Je ne le retourne plus.
Tu laisses tout naturel.
J'étale du foin.
Ouais. Oui, pas mal.
Et ensuite, je mets tout ce qui est branches, feuilles.
Oui, branches, feuilles.
Un petit peu pour être dans une idée de permaculture. Quoi.
Oui, permaculture, voilà. Les pots de bananes, les tomates, les salades.
Recréer un univers.
Oui, les coquilles d'œufs, voilà. Tous ces styles d'œufs. Oui, non, mais c'est super. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Je suis en début de tentative.
Tentative, d'accord.
Permaculteur. Amateur.
On va venir chez toi, on va faire. On va inviter des gens, on va faire une bonne expérience.
L'expérience en musique.
Musique et jardin, ça va ensemble.
Mais bien sûr. Hein? Mais musique et jardin.
D'ailleurs, on va faire une émission là-dessus, ça sera bien.
Oui, on va vous proposer bientôt une émission. On a retrouvé énormément de textes. Je me suis un peu penché sur la question. Il y a des textes poétiques dans toutes les langues, dans toutes les peuplades, dans toutes les cultures. Sur le jardin, sur la création du jardin artificiel, sur la création aussi de toutes les métaphores qu'il y a, le jardin intérieur, on cultive son jardin comme on cultive son intérieur chez soi, dans sa maison. Il y a plein de parallèles à faire et c'est très très intéressant. Ouais. Il y a eu beaucoup de textes et de musique aussi.
Donc alors pensez aussi, quand vous n'êtes pas bien, que vous êtes énervé, stressé, vous allez autour de votre arbre, vous le prenez, pendant 5 minutes, et vous allez vous décompresser, vous verrez, ça vous fera du bien.
Oui, la circulation de l'énergie.
C'est très important, et croyez-moi, ça marche.
Oui. Et on va suivre ton conseil, Serge. Je pense que c'est au moins une tentative de quelque chose, une action à faire.
Oui,
on essaye de faire quelque
chose. Ça
ne coûte rien. Exactement. Tu parlais de la relation de la musique et du jardin. Je pense qu'on arrive à la fin de cette émission.
Oui.
Et je te propose, au lieu de mettre le générique habituel, de finir cette émission en beauté avec une musique qu'on a déjà passée, mais qui est quand même assez extraordinaire. C'est la chanson de Charles Trenet pour finir cette émission, Le Jardin Extraordinaire.
Tout à fait, oui.
Prochain rendez-vous dans 15 jours.
Oui, le 4, non, c'est ça ?
C'est quelque chose comme ça, on vous le reprécise sur le site.
Fait.
Et vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur www.fréquencemistral.com. Au revoir et bonne fin de journée.
Oui, moi je veux dire au revoir à tous les auditeurs de Fréquence Mistral qui sont toujours à notre écoute. Et notre super équipe de Fréquence Mistral, M. Malabab, James et tout le monde. Voilà, merci à tous et au revoir.
Merci. Et bonne fin de journée sur Fréquence Mistral. Allez, on écoute Charles Trenet pour terminer cette émission.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Il y avait un bal que donnait les primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Retrouvez Radio Jardin le 4 février à 15h précise.